Frédéric Barrère pour le journal. Bonjour Frédéric.
Bonjour Ali Badou, bonjour à tous. Il y a encore une chance d'éviter le confinement. Les mesures annoncées hier soir ne font pas l'unanimité, mais le gouvernement fait le pari, le choix, que cela permettra de prendre le dessus sur l'épidémie. Annonce concrète du Premier ministre Jean Castex, les grands centres commerciaux non alimentaires ferment ce soir à minuit. Maxime Debs dans un instant. Et dans ce contexte de crise sanitaire et économique, les lieux de culture fermés depuis le confinement cet automne se mobilisent. Opération Théâtres ouverts pendant une heure cet après-midi. Invité de ce journal, Laurent Rochu, directeur de la Factory à Avignon et à l'origine de cette opération. Le parcours sanglant de Gabriel Fortin, surnommé le tueur de DRH. L'ingénieur au chômage a été mis en examen ce matin pour assassinat dans l'enquête sur le double meurtre dans la Drôme et l'Ardèche. Dans ce journal également, situation alarmante en Centrafrique. 200 000 personnes ont fui le pays à cause des combats. Et la prescription culture pour ce week-end avec un roman qui s'intéresse aux lycéens sous pression. La météo, encore beaucoup de pluie et de vent et de la neige au nord. 20 départements classés en vigilance orange en raison de différentes alertes. Crues, inondations, avalanches ou encore vagues submersions. Jean-Michel Kolinski à la fin de cette édition. À 13h20, secret d'info. Au programme aujourd'hui, Jacques Monin.
Eh bien, une enquête sur le nitrate d'ammonium qui a été à l'origine de l'explosion de Beyrouth il y a 6 mois. La France, c'est le pays qui en utilise le plus en Europe et vous verrez que les contrôles laissent encore à désirer.
Jacques Monin, secret d'info à 13h20.
France Inter.
Après une semaine de messages alarmistes sur les souches variantes du virus et le risque d'une épidémie hors de contrôle, le gouvernement a donc décidé de ne pas mettre le pays sous cloche, pas de reconfinement pour l'instant. À la place, on resserre les vis, notamment pour ce qui concerne le couvre-feu à 18h. Il y aura davantage de contrôles, les frontières fermes pour les voyageurs venant des pays hors Union européenne et pour ce qui est de l'espace Schengen, toute entrée en France sera soumise à un test PCR négatif. Ce qui change sur le territoire, à partir de ce soir minuit, c'est la fermeture des grands centres commerciaux non alimentaires. Des milliers d'employés et de commerçants l'ont appris hier soir lors de l'allocution du Premier ministre Jean Castex.
À compter de ce dimanche, les centres commerciaux non alimentaires d'une surface supérieure à 20 000 m², c'est-à-dire ceux qui favorisent le plus de brassage des populations, seront fermés. Dès lundi, les jauges seront renforcées dans toutes les grandes surfaces.
Jean Castex, hier soir, après le Conseil de défense à l'Élysée et en période de solde, les commerçants et les représentants du Conseil national des centres commerciaux s'inquiètent. 396 galeries marchandes à travers le pays sont concernées, nous dit le gouvernement. Bonjour Maxime Debs.
Bonjour.
Réunion ce matin à Matignon, suivie d'une rencontre à Bercy entre les représentants des commerçants et le ministre de l'économie, Bruno Le Maire.
Oui, et vous en doutez avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'interrogations, hein, parce qu'une fois qu'on a dit, comme le chiffre Bercy et comme vous venez de le rappeler, qu'en tout, 396 centres commerciaux sont concernés, 25 000 commerces. Première question, qu'appelle-t-on exactement centre commercial, soulève un représentant du secteur. Comment calcule-t-on les 20 000 mètres carrés? Ça, c'est pour le côté assez technique. Et comment tout ça va se passer concrètement pour tout un tas d'enseignes, hein, la question et tranché pour les boutiques de vêtements, ça on le sait, hein, aucune ambiguïté, fini pour elle. Mais pour les magasins d'électronique, de bricolage, considérés lors du deuxième confinement comme essentiels et qui sont présents dans les galeries marchandes, et bien là-dessus, tout ça demande des éclaircissements qu'essayent d'obtenir en ce moment même les acteurs du commerce, une vingtaine réunis autour de Bruno Le Maire et d'Alain Griset, ministre délégué au PME, réunion toujours en cours, le gouvernement qui doit aussi rassurer d'un point de vue financier. Comment faire face aux bailleurs? Comment s'acquitter des loyers importants dans ces zones commerciales, dans ces conditions? Le quoi qu'il en coûte s'appliquera, a promis Jean Castex. Question sur la table, clairement, les réponses ne devraient maintenant plus trop tarder.
Maxime Debs, merci. Hier après-midi, avant le Conseil de défense, Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, était reçu à Matignon avec d'autres représentants syndicaux. Des chiffres préoccupants sur la progression de l'épidémie leur ont été présentés, laissant présager une crise sanitaire de plus en plus grave. Une tonalité totalement différente des mesures annoncées. Laurent Berger, surpris par ces annonces, était l'invité ce matin d'Alexandra Ben Saïd dans On n'arrête pas l'écho sur France Inter.
Très honnêtement, j'ai été surpris parce que les chiffres qui nous étaient présentés, je crois qu'ils ont été présentés aussi aux politiques et à d'autres, sur la situation sanitaire, étaient des chiffres qui étaient préoccupants, qui montraient effectivement une forme de plateau à un nombre de cas autour de 20 000 par jour. Et donc, on s'attendait à des mesures plus restrictives, sans les demander. Et par ailleurs, moi, j'ai toujours dit que j'étais pas épidémiologiste et que c'était pas à nous de définir les mesures sanitaires à prendre. Donc, je m'attendais plutôt à ça, c'est vrai. J'ai été surpris aussi parce que depuis une semaine, partout a été débattu. Faut-il faire ci, pas ça, serré, light. Et au bout d'un moment, on pense pas à la population. La population, elle vit ça comme une attente de qu'est-ce qui va se passer, une crainte. Et moi, j'attends aussi qu'on ait aussi des mesures d'accompagnement de la population, de la société, ce qui, de mon point de vue, manque aujourd'hui.
Laurent Berger avec Alexandra Ben Saïd. Et face à la menace des variants britanniques, sud-africains et la crainte d'une explosion de l'épidémie, le gouvernement et le président de la République assument une prise de risque faisant le pari de tenter d'éviter un nouveau confinement, un choix qui ne fait pas l'unanimité. Les scientifiques et l'opposition ne manqueront pas de parler de perte de temps, un pari ou un choix risqué, Élodie Forêt.
Au terme de Paris, l'Élysée préfère celui de choix. Le choix, nous dit-on, de la cohérence, prendre en compte toutes les données, pas seulement les courbes de cas positifs et d'hospitalisation. Hier soir, lors du Conseil de défense face aux partisans du reconfinement, Olivier Véran notamment, le message du président était clair. Il faut penser aux séquelles économiques, mais aussi sociales et psychologiques. Emmanuel Macron avait notamment consulté il y a quelques jours des psychiatres et pédopsychiatres qui l'avaient alerté sur l'état psychique des Français, en particulier celui des enfants. Choix de la cohérence donc, choix aussi de la confiance, alors que des restaurateurs ont lancé un appel à la désobéissance et veulent rouvrir lundi leurs établissements. L'Élysée prévient, ce n'est pas le moment de relâcher la vigilance. Il faut se dire qu'on a une opportunité d'échapper au reconfinement si collectivement on est responsable. Un choix qui comporte une grosse part de risque, admet un proche du président, que les courbes s'affolent dans les prochains jours, lui donnant tort. Emmanuel Macron qui en est conscient, il peut être amené n'importe quand à revenir sur sa décision.
Élodie Forêt, et qu'en pensent les médecins? Les mesures annoncées hier soir seront-elles suffisantes pour permettre à la France d'avoir le dessus sur l'épidémie? Philippe Amouyel, épidémiologiste et professeur de santé publique au CHU de Lille, estime qu'il sera malgré tout difficile d'éviter un reconfinement.
Je crois que ça va quand même être difficile. Il faut quand même se rendre compte qu'on est aujourd'hui à près de 23 000 cas positifs tous les jours. Et surtout, on a cette épée de Damoclès des nouveaux variants qui sont en train de prendre le pas, et c'est ce qui risque de se passer puisque ça s'est passé dans d'autres pays. Maintenant, l'idée, c'est de savoir quel risque on prend entre la balance du bénéfice économique, on va dire, et sanitaire, et de l'autre, du risque sanitaire qui se met en face. Le choix du gouvernement, c'est d'essayer de mettre de nouvelles mesures. Mais on n'est pas du tout dans une phase de confinement. Peut-être que le gouvernement attend finalement le 7 février, date à partir de laquelle les vacances scolaires vont commencer. Les projections que moi j'ai vues annonçaient un pic mi-mars. Donc je pense que de toute façon, à un moment ou un autre, on va voir normalement une progression.
Philippe Amouyel avec Ercine Lebovitch. Et dans ce contexte d'épidémie, de restrictions, de crise économique, on va s'intéresser aux lieux de culture et notamment les théâtres qui se mobilisent avec aujourd'hui cette opération Théâtres ouverts. Et nous recevons Laurent Rochu à l'origine de cette opération. Bonjour Laurent Rochu.
Bonjour.
Vous êtes le directeur de La Factory à Avignon, un réseau de lieux de culture. En quoi consiste cette opération Théâtres ouverts qui ne va durer qu'une heure cet après-midi?
Mais ça consiste à interpeller notre ministère et le gouvernement qui a cruellement manqué encore une occasion de nous envoyer des signaux encourageants et rassurants dans leur prise de pouvoir, de parole, je veux dire. Prise de pouvoir, c'est un beau lapsus. Prise de parole hier soir. Voilà, l'art vivant est plein d'inquiétudes, l'art vivant est un écosystème où il y a une grande diversité. Dans cette diversité, il y a beaucoup de compagnies qui sont fragiles, il y a des intermittents qui pensent et qui sont presque sûrs qu'ils n'auront pas joué pendant plus de 8 mois pendant cette saison culturelle, et auxquels on dit que la reconduction d'un an de l'année blanche n'est pas une priorité. C'est insupportable. C'est des gens qui, tous les matins, se lèvent en se demandant si le 1er septembre, ils ne se retrouveront pas au RSA. Donc ça, c'est une urgence. Il faut que le ministère nous entende. Et l'ouverture des théâtres est un symbole. Quand un théâtre est ouvert, il paye des spectacles. Quand il paye des spectacles, il contribue à l'écosystème et à l'économie des compagnies. Les compagnies vont être 8 mois sans rentrée d'argent et on les indemnise sur la base de leur chiffre d'affaires 2019. Donc, très gentiment, on dit au ministère, il faut reconsidérer votre façon d'indemniser les compagnies. Il faut les indemniser sur la base des contrats perdus, des contrats qui seront annulés et pas honorés, parce que sinon, cet écosystème et cette diversité de l'art vivant va s'éteindre. On aura à l'été peut-être des festivals, mais avec uniquement le carré vif des compagnies d'art vivant, uniquement celles qui sont fortement soutenues par déjà de l'argent public.
Alors Lionel, Laurent Rochu, pardon, on entend bien votre angoisse, votre inquiétude. La principale crainte, c'est que ben voilà, les compagnies ne survivent pas à la crise, que les comédiens soient amenés sans doute à changer de métier.
Voilà, on a l'impression que peut-être qu'il y a une petite arrière-pensée qui consisterait à se dire qu'on va laisser la sélection naturelle se faire. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où les compagnies sont bien accueillies, où elles ont un budget constant, parce que de toute façon, on leur a maintenu. Encore une fois, entendez-moi bien, je ne parle pas pour moi, mon modèle économique va très bien. Là, je monte au front un peu comme Cincinnatus dans l'Empire romain. De temps en temps, il faut qu'il y ait un citoyen qui pose la charrue et qui monte au front. Donc je ne monte pas au front pour moi, je ne demande pas la réouverture des théâtres pour que je puisse remettre en route ma caisse. Mon système économique fonctionne sur les festivals de l'été. S'il n'y a pas de festival cet été, je me poserai des questions après. Mais les urgences que je ressens, c'est parce qu'on est un écosystème, on est solidaire, on se tient tous les coudes. J'entends toute la journée des comédiens, des musiciens, des compagnies nous dire « je ne sais pas si le mois prochain on sera encore là ». Ce n'est plus entendable. On ne peut pas entendre un ministère nous dire avec morgue « oh ben oui, mais il y a un principe de précaution, on va voir, on verra plus tard ». Non, c'est tout de suite. Il y a un état d'urgence culturel qu'il faut déclarer. J'appelle le ministère à l'entendre, parce que c'est très bienveillant notre appel. On a besoin, on est un petit peu comme les hobereaux de province qui étaient avec leur cahier de doléances quand ils montaient à la cour à Paris, ben on en est là. Les territoires vous disent, vous n'avez pas tout compris de la façon dont l'écosystème de l'art vivant souffre aujourd'hui.
Laurent Rochu, merci beaucoup, directeur de La Factory à Avignon.
France Inter, le journal de 13h, Frédéric Barrère.
L'actualité en France, c'est également la mise en examen pour assassinat de celui que l'on surnomme le tueur de DRH. Gabriel Fortin, cet ingénieur au chômage de 45 ans, a été présenté ce matin à un juge d'instruction, Willy Moreau.
Devant le juge d'instruction ce matin, il est resté aussi mutique que pendant ses 48 heures de garde à vue. Les enquêteurs n'ont donc pas d'informations plus précises sur ses motivations. Ce qui apparaît pour l'instant, c'est qu'il a tiré pour tuer jeudi matin sur la responsable de Pôle emploi, mais on ne sait pas s'ils se connaissaient tous les deux. En revanche, dans l'entreprise Faune, en Ardèche, il a d'abord demandé à voir une personne aujourd'hui à la retraite, puis Géraldine Caclin, la DRH sur qui il a tiré deux fois. Vu la gravité de l'affaire, deux juges d'instruction sont co-saisis du dossier Andromardèche. L'enquête sur l'assassinat et la tentative d'assassinat en Alsace mardi soir reste gérée par la gendarmerie sous l'égide des parquets de Colmar et de Mulhouse. Les dossiers ne sont donc pas encore joints. Mais un détail intrigue, l'homme a loué une voiture rouge mardi en Lorraine. Une voiture rouge a été aperçue le jour même dans le Haut-Rhin au moment des premiers coups de feu.
Willy Moreau, France Bleu, Drôme, Ardèche. À l'étranger, des milliers de manifestants en Pologne contre la quasi-interdiction de l'avortement. Pour la troisième nuit consécutive, des milliers de personnes se sont rassemblées à Varsovie et dans plusieurs villes du pays pour crier leur colère après la publication de l'arrêt au journal officiel. Désormais, toute interruption volontaire de grossesse en Pologne est interdite, sauf en cas de viol, d'inceste ou si la vie de la mère est en danger. Varsovie, Sarah Bakaloglu.
Depuis trois jours, Maria descend dans les rues de Varsovie tous les soirs. Pour la polonaise, la décision du tribunal constitutionnel est un tournant.
Je suis très très en colère car le gouvernement m'enlève mes droits en tant que femme, en tant qu'être humain.
Est-ce que vous vous sentez encore en sécurité en Pologne ?
Plus maintenant. J'ai 36 ans aujourd'hui et pour la première fois de ma vie, je pense à quitter le pays. La Pologne, c'est un pays pour les hommes, pas pour les femmes.
Dans la foule, les slogans sont dirigés contre le parti conservateur au pouvoir, le parti Droit et Justice, responsable de cette quasi-interdiction de l'avortement. La députée de l'opposition de gauche, Wanda Domitsa, assure qu'elle continuera à se battre malgré les difficultés.
On a déjà proposé deux lois au Parlement pour libéraliser l'avortement, mais elles n'ont jamais été mises à l'agenda pour débattre. Nous allons donc lancer une initiative civique, car ainsi, le Parlement est obligé d'en discuter. C'est la manière dont on force un gouvernement qui hait les femmes à débattre d'une libéralisation de l'avortement.
Car en Pologne, seulement 10% de la population environ soutient une quasi-interdiction de l'avortement dans le pays. Sarah Bakaloglu, Varsovie, France Inter.
Situation alarmante en Centrafrique. Plusieurs pays africains de la région des Grands Lacs appellent les rebelles qui tentent de renverser le régime du président Touadéra à cesser le feu immédiatement. 200 000 personnes ont fui la Centrafrique en l'espace de 2 mois seulement, selon l'ONU. Les violences dans ce pays obligent les habitants soit à se déplacer ou à se réfugier dans les pays voisins, Cameroun, Tchad ou Congo. Nathanaël Charbonnier, notre correspondant à Dakar.
Le 13 janvier dernier, les rebelles se trouvaient à seulement 12 kilomètres de la capitale Bangui, 12 petits kilomètres du pouvoir central. Depuis, ils ont été repoussés par les casques bleus de la MINUSCA, par l'armée régulière, épaulée par des militaires rwandais ou encore des paramilitaires russes. Mais cette guerre qui vise à renverser le président Touadéra, fraîchement réélu en décembre dernier, se fait surtout contre la population. Blocage des routes approvisionnant la capitale, insécurité absolue, hausse des prix des denrées alimentaires, autant de facteurs qui rendent la situation invivable dans un pays déjà particulièrement fragile. L'ONG Action contre la faim parle d'une insécurité alimentaire touchant au moins 2 300 000 personnes, soit la moitié de la population du pays. Les chiffres rendus publics par l'ONU montre une accélération de la dégradation de la situation, le nombre de personnes devant fuir ayant plus que triplé en l'espace de quelques semaines seulement. À Dakar, Nathanaël Charbonnier, France Inter.
La prescription culture pour ce week-end est un livre sur nos lycéens. On parle beaucoup en ce moment du mal-être des étudiants, mais qu'en est-il des lycéens soumis à la pression de la réussite scolaire alors qu'ils sont en proie au malaise existentiel de l'adolescence, ados sous pression, parents angoissés? C'est le sujet du nouveau roman de Vanessa Bamberger, L'enfant parfaite, Ilana Mor-Youssef.
On est trop sérieux quand on a 17 ans. Roxane n'a pas une minute à perdre. Contrôle de maths, contrôle de physique-chimie. Dans son lycée, les profs le répètent sans arrêt. Seuls les meilleurs seront admis en prépa. La pression que s'infligent les ados, Vanessa Bamberger l'a observée de très près.
À l'époque, j'avais une fille qui rentrait en première, qui avait toujours été très bonne élève. Et tout d'un coup, elle s'est mise à pu y arriver. J'étais complètement désorientée parce que je me suis rendu compte que je lui avais mis la pression. Je crois qu'il y a une sorte de peur viscérale qu'on a en tant que parent, on a envie que notre enfant réussisse bien à l'école, ça nous donne l'impression d'être un bon parent. C'est comme une peur primale en fait.
Pour ne pas inquiéter ses parents divorcés, Roxane s'efforce de bien travailler, mais c'est trop de pression. Elle ment sur ses notes, elle ment pour obtenir son médicament contre l'acné, au mépris des effets secondaires. Pendant l'écriture, Vanessa Bamberger a beaucoup parlé avec ses filles et avec les amis de ses filles.
Je leur lisais les chapitres de Roxane. Et il me disait, oui, alors ça, non, on le dirait pas, ça, on le ferait pas, ça, on le ressentirait pas. Je voulais que ce soit un texte assez percutant, assez court, assez sec, qui rende vraiment le mieux compte possible de la très grande fragilité et très grande vitalité qu'il y a à tout adolescent. Je voulais qu'on puisse les écouter parler.
L'enfant parfait, c'est au fond le rêve monstrueux des parents angoissés. Et quand il échoue, on peut se demander à qui la faute.
L'enfant parfaite de Vanessa Bamberger, publié aux éditions Liana Lévy. Et on part dans les Alpes avec du ski et la Coupe du Monde de slalom homme à Chamonix. On va suivre tout particulièrement le vainqueur de l'édition 2020, le Français Clément Nouel, et bien sûr l'un des favoris, Alexis Pinturault. Sur place à Chamonix, on retrouve Guillaume Batin. Bonjour Guillaume.
Bonjour Frédéric, bienvenue sous la pluie à Chamonix.
Je crois que la deuxième manche se termine ou va se terminer. Et oui, les Français se sont bien classés lors de la première.
Eh bien écoutez, traditionnellement, pendant qu'une épreuve n'est pas terminée, celui qui occupe le meilleur temps s'assoit dans le siège du sponsor face à la caméra. Et pour l'instant, c'est un Français qui est dans ce fauteuil en attendant que le dernier, c'est-à-dire le meilleur temps de la première manche, c'est l'Autrichien Marco Schwartz, c'est Clément Noël qui est dans ce siège. Il vient d'en sortir pour se rapprocher de la raquette, de l'air d'arrivée, éventuellement sauter de joie il conserve sa petite avance sur Marco Schwartz qui vient de démarrer. Il y en a pour 50 secondes. Sur cette piste de la Verte des Ouges qui est gorgée d'eau, il a plu depuis 24 heures. Les pisteurs, les préparateurs de la piste ont fait un gros travail, notamment cette nuit en travaillant sous la pluie. Ils ont mis du gros sel un peu partout pour garder une piste compacte, dure. Elle s'est beaucoup abîmée, cette piste. Jean-Baptiste Grange, double champion du monde, nous l'a dit il y a un instant. Marco Schwartz est toujours dans sa descente. Il est à peu près à mi-parcours. Pas de faute pour l'Autrichien qui est extrêmement fort cette année parce que c'est lui qui mène gagne le classement du slalom. Il a 40 millièmes de retard maintenant sur le Français Clément Noël, qui montera de toute façon sur le podium tout à l'heure. Au pire, il sera deuxième si Marco Schwartz passe derrière lui. Je crois que c'est bon. Eh ben, Clément Noël réédite l'exploit de l'année dernière. Il s'était imposé ici à Chamonix. C'était sa dernière victoire parce que tous les slaloms de la fin de saison passée ont été annulés pour les raisons que vous imaginez. Clément Noël est donc en tête de ce premier des deux slaloms du week-end, devant le Suisse Sven Ozern et Marco Schwartz, le premier de la première manche qui finit troisième. Et puis un petit mot d'Alexis Pinturault, le leader du classement général de la Coupe du Monde. Il ne sera pas sur le podium, mais il a marqué des points et ça c'est bon pour l'avance face notamment à Marco Schwartz au classement général de la Coupe du Monde. Des bonnes nouvelles côté français ici à Chamonix.
Oui, c'est bon comme vous dites. Merci Guillaume Batin de nous avoir fait vivre ce slalom et la première place c'est la victoire de Clément Noël. Le temps pour demain et pour cet après-midi d'abord.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Avec Via Santé, devenons tous acteurs de notre santé. Et vous aujourd'hui, comment ça va ?
Jean-Michel Golinski.
Les 20 départements en vigilance orange le sont en grande majorité pour le risque de crue. Les littoraux bretons et aquitains pour les vagues submersion. Ce soir sur le Finistère et le Morbihan. La nuit prochaine sur la Gironde, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. La dépression Justine va continuer à donner un temps perturbé et pluvieux et toujours neigeux en montagne, avec tout de même une accalmie temporaire sur les régions de l'ouest avant l'arrivée de nouvelles pluies ce soir par la Bretagne. Le vent va devenir fort en soirée du sud-ouest au golfe du Lion et la nuit prochaine sur la Corse, le tout dans des températures cet après-midi douces pour la saison, sauf dans l'extrême nord du pays où le vent de secteur est va apporter de l'air plus frais en donnant des intermèdes de pluie et de neige mêlés en fin de journée, notamment du Nord-Pas-de-Calais aux Ardennes.
Jean-Michel Golinski de Météo France.